muri genocide abantu bacu barabica barashira nkibuka butwaririmbanaga nyine ari bo bavandimwe banjye hanini ni inshuti zatugendereraga n'abandi bavandimwe ku ruhande nyuma rero ya genocide ntangira guhimba indirimbo yibuka uko batugize uko banteye agahinda narose impinga itagira impumu narose iyahanda twamumaga jigikundi irakinshahara baruta.
Le génocide des Tutsis du Rwanda s'étendra à l'ensemble du pays et se poursuivra jusqu'à la mi-juillet 1994, date à laquelle le Front patriotique rwandais se rend maître de l'ensemble du pays. Il aura causé 1 million de victimes en une centaine de jours. Immaculée Mukwandoli est restée cachée pendant 100 jours avec ses 5 enfants et ses 3 jeunes protégés. Ils ont été sauvés au début du mois de juillet 1994. Tous ont survécu au génocide grâce à Idrissa, leur voisin Hutu.
Chères auditrices, chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Nathalie Barge pour vous présenter le magazine au féminin de VOA Afrique, dans lequel vous venez d'entendre un extrait du documentaire de Mediba et Jérémy Frey sur le génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994, qui s'intitule « 7 jours à Kigali » sur une musique originale de Michael Montes. Alors, un documentaire produit par Florence Giraud et Lady Bird Films avec la participation de France Télévisions, France 3 et des radios télévisions suisses et belges, RTS et RTBF. Et la chanson que nous entendions, la petite chansonnette au début, c'est la chanson d'Immaculée, hein, une survivante, une rescapée, mère de famille, qui disait donc en Kinyarwanda, je crois, le chagrin qu'ils m'ont causé. Hein, c'est pour témoigner de ce qu'elle a vécu. Et nous avons justement le réalisateur en ligne à Dakar, Mediba, journaliste à Jeune Afrique et spécialiste de la période du génocide. Merci beaucoup d'être avec nous, Mehdi.
Merci à vous, Nathalie. Bonsoir.
Alors, quel a été le rôle et la condition des femmes pendant et après le génocide contre les Tutsis au Rwanda? C'est une question à laquelle nous tenterons de répondre au cours de ce débat, avec également comme invité une survivante de cette période, Yvette Rugazagunga, qui avait à l'époque 14 ans et qui est aujourd'hui deuxième conseiller à l'ambassade du Rwanda à Dakar. Yvette, merci d'avoir accepté l'invitation.
Merci de m'avoir invitée, Madame Nathalie Barge.
Alors, revenons tout de suite sur 7 jours à Kigali, ce film de 60 minutes qui présente des témoignages poignants. Donc, je me tourne tout de suite vers Mehdi, n'est-ce pas? Pourriez-vous nous dire un mot, très rapidement, un mot sur pourquoi avez-vous créé ce film finalement? Parce qu'il y en a eu de nombreux, comme nous le savons, ce n'est pas fini, il y en aura encore. Mais vous, qu'est-ce qui vous a incité à le faire et pourquoi de cette manière-là, si vous avez des particularités à nous présenter sur ce film documentaire?
Écoutez, pour faire vite, je dirais 2 choses. La première, c'est que comme je viens de l'univers de l'écrit, de la presse écrite, de l'édition, en tant qu'auteur, en tant qu'éditeur, je m'étais rendu compte à quel point l'écrit permet de parler de manière complète et précise du génocide des Tutsis. Mais il manque quelque chose quand vous ouvrez un livre et que vous êtes loin de cette histoire, que vous n'avez pas de lien direct avec cette histoire, il manque quelque chose qui permette d'incarner cette histoire. Donc, à la veille de la 20e commémoration, je me suis dit que l'image, qui n'était pas mon domaine, permettrait de donner la parole à des protagonistes directs du génocide, et ainsi, pour des gens qui sont loin de cette histoire, leur permettrait de se l'approprier, de la comprendre, d'y être sensible, et d'éprouver, si je peux dire, de la compassion, de l'empathie, d'une manière plus forte. que par l'écrit. Et la deuxième chose, c'est que étant moi-même étant tombé dans cette histoire par intérêt en tant que journaliste, en tant qu'être humain, en tant que Français, en 94, je me rendais compte qu'il y a plein de films extraordinaires, extrêmement porteurs sur la question du génocide, mais ils avaient à mes yeux un côté un peu trop académique, c'est-à-dire que on racontait le génocide comme si c'était un cours d'histoire dans une université. Et j'ai voulu, moi, couper court avec la question des racines, de l'idéologie du génocide, de ne pas remonter au 19e siècle, et tout simplement écouter des gens de toutes origines. Il y a des Belges, il y a des Français, il y a des Rwandais, il y a des génocidaires, il y a des rescapés. Les écouter raconter ce qu'a été la première semaine du génocide à Kigali.
Justement,
raconter ça face caméra.
Alors justement, je vous propose d'écouter un premier extrait des témoignages de génocidaires jugés et qui purgent leur peine.
On n'était plus des êtres humains. Les gens étaient devenus comme des bêtes.
On n'était plus les hommes. On n'était plus les hommes. C'était comme un chien qui avait du rage. Un chien qui a du rage, vous ne pouvez pas l'arrêter facilement. Donc, il va mordre n'importe qui, n'importe comment, n'importe où. Donc, ça a été vraiment quelque chose qui a été... Je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais comme un lion qui était vraiment très fâché. Donc, il y a eu là-dedans de la sauvagerie également. Ça, je le reconnais. Parce qu'on a tué sans pitié. Sans pitié.
Des milliers, des dizaines de milliers de morts au Rwanda et l'on craint de nouvelles violences dans les heures qui viennent.
Depuis mercredi, ce début de guerre civile a fait de très nombreuses victimes. Pour le moment, donc, la plupart des 3000 étrangers installés au Rwanda observent à la lettre les consignes de sécurité.
Voilà donc un extrait du film « 7 jours à Kigali », les témoignages notamment d'Isaac Nkoubito, un responsable de quartier qui a participé au génocide, et Valérie Bemeriki, animatrice à la RTLM, radio extrémiste Hutu, de la période du génocide. Alors Valérie, justement, on va en parler de Valérie. Mehdi, est-ce qu'il vous a été difficile d'approcher ces témoins génocidaires? Est-ce que cela vous a été difficile, et comment vous les avez-vous abordés?
Non, difficile, ça n'a pas été du tout difficile de les aborder en tant que tels. C'est-à-dire que d'un côté, les autorités rwandaises à l'époque n'ont posé absolument aucun obstacle dans le cadre du projet de ce film pour nous permettre de rentrer dans la prison qu'on surnomme 1930 à Kigali, où énormément de génocidaires, hommes ou femmes, sont incarcérés, surtout des hommes, mais il y a aussi des femmes.
Non, mais je voulais dire, je voulais simplement dire, est-ce qu'il vous a été facile? Est-ce qu'elles ont accepté facilement ces personnes, justement, de se confier à vous?
J'allais y venir, mais je tenais quand même à préciser cette dimension. C'est-à-dire que ça n'est pas tabou d'aller interviewer, pour un documentariste, un génocidaire incarcéré au Rwanda. La deuxième dimension, c'est que Valérie Bemeriki, comme Isaac Nkoubito, n'ont posé aucun obstacle. La vraie difficulté, je vais vous dire ce que c'est. La vraie difficulté, c'est de faire affleurer une parole vraie dans la bouche d'un génocidaire ou d'une génocidaire. Or, je ne suis pas dupe, il était capital pour notre film que cette parole soit représentée. C'est-à-dire qu'on fasse, c'était un de mes partis pris narratifs de départ, c'était qu'il fallait un récit du génocide à 360 degrés. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas y avoir seulement la parole des rescapés ou des témoins qui étaient en empathie avec les rescapés. Il fallait aussi qu'il y ait la parole des génocidaires et que les génocidaires expriment par leurs propres mots: oui, il y a bien eu un génocide au Rwanda. Ça, c'était quelque chose de clé. Or, Valérie Bemeriki, elle est tout à fait ouverte pour raconter son histoire. Isaac l'a été aussi. Maintenant, la vraie difficulté, et je ne vais pas m'étendre parce que je sais que le temps nous est compté, mais je tiens quand même à le préciser, c'est que vous ne pouvez pas, face à un génocide, face à des gens qui ont été du côté des tueurs, du côté des exterminateurs, des massacreurs, vous pouvez pas Vous ne pouvez pas faire affleurer une parole qui soit une parole authentique. Ça, la parole authentique, vous pouvez l'entendre, et on va l'entendre dans la bouche d'Yvette, vous pouvez l'entendre du côté des rescapés, mais vous ne pouvez pas l'entendre du côté des tueurs. Ils peuvent reconnaître des faits, mais c'est des faits comme désincarnés. Et je terminerai en disant que Isaac, par exemple, s'est montré extrêmement coopératif, qu'il a désavoué sans conteste le génocide qui s'est passé, mais Isaac n'a pas dit un mot, et c'était pas mon but de le faire parler de son propre rôle. Mais Isaac Oubito a été condamné à la perpétuité. Il n'a jamais évoqué son propre rôle. Et Valérie elle-même n'a pas vu de cadavre au Rwanda pendant toute la durée du génocide. Donc, nous avons gardé au montage des passages qui nous semblaient significatifs et qui avaient un moment de vérité. Mais je dirais que les moments de vérité dans le témoignage d'un génocidaire, ça va représenter 5 à 10% de tous les rushs de ce que vous pouvez capter.
Et Valérie a été condamnée à une peine de combien d'années d'emprisonnement ?
Oh, elle a eu 2 peines, et si j'ai bonne mémoire, mais je peux me tromper, je pense qu'elle a eu une peine de 30 ans et une peine de perpétuité.
Yvette,
donc, globalement, elle est condamnée à perpétuité.
Yvette, quand vous entendez ce type de témoignage, vous aviez, vous m'avez dit auparavant, vous aviez 14 ans à cette époque. Donc vous êtes une survivante, vous étiez jeune fille. Quand vous entendez avec du recul, même s'il est très difficile d'en avoir, on l'imagine, comment réagissez-vous par rapport à ces types de témoignages ? Vous en avez entendu d'autres, bien sûr. Témoignages des génocidaires.
Ça ne peut que, je l'admets, m'ont ramené exactement au Rwanda il y a 22 ans. Peu importe que 22 ans viennent de s'écouler, à chaque fois qu'on entre dans l'histoire du génocide, c'est comme si c'était quelque chose que nous vivons. C'est comme si ça s'est passé hier. D'ailleurs, la voix de Valérie Bemediki, c'est une voix qui représente plus qu'une personne, pas seulement parce que c'est une génocidaire, mais parce qu'elle est à travers la RTLM, elle était comme une lumière. C'est ce qu'il vous a dit, l'idéologie qu'elle a incarnée, elle a pu transférer ça, mais à tous les Rwandais, si vous voulez, hommes et femmes. Donc, ce n'est pas l'idéologie à elle qui m'a fait revivre, mais c'est vraiment l'idéologie. C'est l'animosité, c'est la haine très excessive qui animait tous les génocidaires de l'époque. Et quand je dis tous les génocidaires, je dois préciser que c'est vraiment tous les Rwandais, nous, les Tutsis, nous qui étaient attaqués. Petit à petit, je dirais, le premier jour, moi à 14 ans, tout ce que j'avais su, c'est que le président était abattu, le président était mort. Mais personne ne m'a expliqué, je sentais déjà le danger. Bon, j'étais chez moi, ma famille, on a été obligés de se cacher avec des communiqués qui passaient, pas seulement à travers la RTLM, mais aussi la Radio Nationale, qui disait « personne n'a le droit de sortir, tout le monde doit rester à l'intérieur ». Mais en même temps, les miliciens, les bien connus, bien formés, nous les connaissions, nous étions voisins, nous étions même parentés, si vous voulez, nous étions amis, ils étaient déjà dehors. Les tueries déjà avaient commencé le 7, le matin du 7. Mon père a été appelé par un voisin pour témoigner à des tueries d'un voisin. Ce n'était pas juste des tueries parce que le corps de sa femme était déjà étalé nu. Juste pas loin de chez nous. Bon, là je parlais du matin du 7. Le 9, c'est là où mon père, lui, a été tué. J'étais pas avec lui, je peux un peu résumer, mais j'étais pas même pas à 200 mètres de lui. Les tueries, les balles qui l'a coûté la vie, je les ai entendues moi-même. Et comment d'ailleurs on a parvenu à l'attraper, c'est qu'il y avait un groupe qui courait derrière mon grand frère. Mon grand frère à l'âge de 22 ans. Et comme un jeune homme, je suis sûre qu'il espère se sauver, il a couru. Et le groupe des miliciens de notre quartier, je viens de Kigali, on habitait un quartier sous le nom de Gatsata, Et voilà, c'est là où mon père est sorti de la maison d'un Hutu, ami, qui avait accepté de me cacher. Et mon père, quand il a entendu des cris, il est sorti. Bon, bizarrement, j'ai essayé de le retenir, il n'y a pas pu. Et c'est comme ça qu'on l'a attrapé. On lui avait demandé d'accepter sa vie s'il pouvait attraper son fils. Bien sûr qu'il ne l'a pas fait. On a pris mon père, on l'a ramené chez nous, devant ma grand-mère, on l'a fusillé. Alors, ce fusillade n'a pas... Ma grand-mère, d'ailleurs, a été... Bon, elle ne savait pas quoi faire. Elle les a suppliés, on l'a tué sur le coup.
Yvette, mon frère... Ouais, je suis vraiment désolée de vous couper. Hein. C'est vraiment un témoignage très touchant et qui vous ramène effectivement en arrière. Nous allons à présent nous concentrer sur effectivement le rôle des femmes lors du génocide. Et je vous propose à présent d'écouter le témoignage d'Yvonne, une dame tutsi du documentaire, et de son mari Pierre, un Français.
Et l'enfant est mort sur le coup. Et il est mort, mais... Il a gardé les yeux ouverts vers nous, comme ça, vers mon côté. Il a les yeux comme ça, il me regarde les yeux ouverts et je n'arrive plus à regarder ailleurs. Je l'ai pris comme ça, la petite tête, et je suis restée là. Et je me suis agenouillée. Je ne pouvais plus me lever, mais après, je me suis levée. Je suis restée là, plantée, et j'attendais. Et du coup, il y a un type qui dit... T'inquiète pas, je vais te protéger et personne ne te touchera. Mais tu sais ce que tu me dois. On me ramène dans la maison et donc je reste là.
Quand j'arrive, donc je me suis adressé immédiatement au militaire. J'ai dit, ma femme est tutsi, elle va se faire tuer, c'est juste à côté, venez m'aider, il faut la sauver. Et on part comme des fous, avec un camion derrière.
Je me lève, je regarde, je vois une antenne. Et quand j'ai vu une antenne, je me dis, peut-être qu'ils arrivent.
Et je crie, Yvonne.
Mais je ne peux pas répondre. Je me dis, si je réponds, on va m'entendre, on va me tuer tout de suite.
Je tape sur le portail et elle ne répondait pas.
Les miliciens qui courent dans le jardin, qui hurlent que la Tutsi s'en va, je n'ai plus de seconde à perdre, je prends de l'envol.
J'aide à monter Yvonne dans le camion, et les militaires disent « couchez-vous » et ils partent à fond.
Et je vois Pierre, on se dit rien.
Et là, j'étais soulagé parce que j'ai vraiment cru qu'elle avait été tuée, quoi.
Voilà un extrait du film « Sept jours à Kigali », donc réalisé par Mediba, et qui a justement récemment participé à un forum à Dakar, le Cinéforum, dont l'objet était la lutte contre l'idéologie génocidaire. Je voudrais maintenant poser des questions à Mehdi et à Yvette, éventuellement, et qui voudra bien y répondre éventuellement. C'est des questions d'auditeurs et de Facebookers. Il y a Alphonse Mbouaki qui pose plein de questions. J'en ai 5 sous les yeux, dont il dit... les femmes hutus ont-elles aussi été meurtrières comme les hommes pendant le génocide? Je pense qu'il entend par là, est-ce qu'il y a eu des femmes à l'action avec des machettes de ce type-là éventuellement? Peut-être Mehdi. Mehdi, est-ce que vous pourriez répondre à cette question?
Oui, écoutez, sur la question du vécu, je n'ai pas la légitimité que peut avoir Yvette. Moi, je parle en tant que journaliste et je conseille à votre auditeur de se reporter à un rapport qui a été publié il y a déjà pas mal d'années. Je pense qu'on était très peu de temps après le génocide, de l'ONG basée en Amérique, justement basée aux États-Unis, Human Rights Watch, qui s'appelle « Not So Innocent ». Pas si innocente que ça. When women become killers. Donc, il y a eu. Bon, globalement, le génocide a été très sexué. C'est-à-dire que le travail, c'était le travail des hommes. Parce que le travail au Rwanda entre avril et juillet 94, ça voulait dire exterminer les Tutsis. Et donc, c'était essentiellement un travail d'hommes. Et les femmes, si je peux dire, jouaient globalement un rôle de supplétive. Ça veut dire qu'elles passaient dans les maisons des familles Tutsis exterminées, elles allaient récupérer les biens qui pouvaient avoir une valeur marchande. Mais il ne faut pas oublier, bien évidemment, et quand bien même ce serait minoritaire, dans un contexte d'une telle cruauté, d'une telle sauvagerie, même 1%, ça mérite d'être mentionné, il y a eu bien sûr des femmes Hutus qui ne se sont pas résolues à jouer le jeu et qui ont été un des rares havres d'hébergement, de protection pour des Tutsis menacés. Donc parmi les rescapés, mais ça j'en parle avec distance et je laisse Yvette en parler, je pense qu'il y a eu effectivement une fraction de femmes Hutus, en tout cas c'était surtout des femmes, mais ça a pu être des hommes, on l'a vu avec le témoignage d'Immaculée que vous avez reproduit, qui ont pu héberger des rescapés, les protéger, les cacher, leur permettre d'échapper à la mort, quand bien même l'immense majorité des Tutsis n'avait aucune possibilité de se cacher. En tout cas, sur la question du rôle des femmes en tant que criminelles dans le génocide, je renvoie à ce travail, qui est un travail de terrain, qui a été publié peu de temps après le génocide. Non, c'était, je pense, African Rights, pas Human Rights Watch, African Rights, et ça doit pouvoir se trouver quelque part sur Internet.
Merci Mehdi. Alors justement, Alphonse pose d'autres questions. Les femmes Hutus ont-elles protégé leurs amis femmes Tutsis et les enfants? Ont-elles cautionné ces tueries? Donc vous venez quasiment d'y répondre. Une question pour Yvette. Aujourd'hui, les femmes font-elles entendre leur voix pour une coexistence pacifique et durable entre Hutus et Tutsis? C'est donc la question d'un Facebooker. Yvette.
Nathalie, si vous me permettez, je voudrais aussi ajouter à ce que Mehdi Ba vient de dire. Je voudrais souligner que le génocide a été un génocide très intime. Intime dans le sens où c'était un voisin qui tuait un voisin. Même si les femmes n'étaient pas les plus nombreuses à effectivement prendre des machettes, les femmes, quand vous regardez bien, étaient plutôt impliquées dans la dénonciation. Donc, même s'ils n'avaient pas des outils, mais elles étaient très, très impliquées en déterminant qui devait être tué et à savoir où cette personne était cachée. Donc, ce n'était pas juste le fait qu'ils ont pillé, ça aussi c'est vrai, mais il faut aussi, parce que c'est important, de comprendre pourquoi le génocide perpétré contre les Tutsis a eu beaucoup de succès. Parce que effectivement, l'idéologie génocidaire était bien comprise et bien enseignée. Et c'est la femme, n'oublie pas, au Rwanda, on dit qu'une femme, c'est le cœur de la famille. Donc, l'idéologie génocidaire n'était pas seulement véhiculée par le système politique, mais surtout par les familles. Et là, c'est la femme qui était au centre. Donc, je voulais parler de ça. Aussi, à ce qui concerne le Rwanda d'aujourd'hui, la coexistence, l'unité et la réconciliation, ou bien la reconstruction du pays après le génocide perpétré contre les Tutsis, alors, la femme retrouve sa place, effectivement, pour les mêmes raisons. Le fait que, après le génocide, la plupart des survivants étaient majoritairement féminins. La plupart des Rwandais en général, des réfugiés qui avaient quitté le Rwanda vers le Congo et les autres pays limitrophes, étaient en majorité les hommes. Donc, ça veut dire que la population rwandaise était en grande partie féminine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ces femmes, soit qui étaient veuves, que ce soit victimes ou génocidaires, ou du côté génocidaires, ou peut-être même les observateurs, parce qu'il y en avait aussi, que ce soit ceux qui avaient leur mari aux prisons, ils se sont retrouvés devant un fait accompli de se reconstruire la vie. Et petit à petit, comme la politique de chez nous, là je voudrais souligner ce que notre président, son Excellence Paul Kagame, dit souvent, personne n'est né mauvais. Donc,
merci
ça veut
beaucoup.
Dire que cette idée...
Merci beaucoup Yvette, veuillez nous excuser de vous avoir coupé, mais nous arrivons au terme de ce magazine. C'était Yvette Rougaza-Gouhunga et Mediba. À très bientôt, au revoir.
Je dis qu'on dira qu'il y a un chahara.